maintenant sur France Bleu Pays Basque.
La semaine prochaine, le week-end prochain, c'est la fête de la corniche au Pays Basque. Alors allons sur notre belle corniche basque, la plus belle promenade romantique en calèche ou en voiture. Écoutez l'océan qui se jette contre les rochers. Regardez les oiseaux, les goélands argentés jouer dans le ciel, danser dans notre azur. La corniche est ouverte au public la semaine prochaine, dimanche, sans voiture. Alors changeons de point de vue, prenons le bateau, éloignons-nous un petit peu. On change de point de vue, on regarde les falaises qui nous racontent certainement beaucoup de choses sur nous, sur la nature, sur notre histoire, sur notre avenir, comment se sont formés ces plissements, ces accumulations de grès, de schiste, 6 km de corniche à découvrir sous le soleil aujourd'hui avec vous, Guy Aubertin. Bonjour Guy.
Bonjour.
Guy, vous êtes géologue, mais vous êtes aussi écrivain et vous êtes un homme curieux. C'est bien
oui,
ça
oui.
Vous allez rester avec nous dans Entre Terre et Mer jusqu'à 11h30.
France Bleu Pays Basque.
Dango, les années 80.
L'aventure basque entre terre et mer continue sur francebleu.fr.
Et aujourd'hui dimanche, une semaine avant cette ouverture à la corniche pour tous, piétons bien sûr, nous allons vous recevoir Guy Aubertin, géologue, écrivain, pour faire une sorte d'état des lieux un petit peu de cette corniche que vous connaissez bien, qui vous tient à cœur. Quel est votre sentiment par rapport à cette corniche? Comment vous la voyez?
Un petit peu comme tout le monde, elle est d'abord très belle, et puis elle nous enseigne pas mal de choses, à la fois sur la planète, l'homme, les hommes de ce pays, et on peut aussi réfléchir à notre futur.
Ouais. Et j'imaginais tout à l'heure un point de vue, on est sur un bateau, Guy, et on regarde la corniche, les falaises. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire?
Écoutez, la première chose, c'est quelque chose d'assez peu commun, parce que le géologue se plonge toujours dans l'histoire de notre planète. Et la première chose, on a tous l'idée que la corniche est un lieu de passage, des hommes, des bateaux, des oiseaux, des baleines. Et en fait, c'est aussi un lieu de réunion des continents. Parce que ce qu'on ne sait pas trop, c'est que l'Espagne, jusqu'à avant 40 millions d'années, n'était pas attachée à la plaque européenne. Mmh. Et en fait, cet endroit est le lieu où la plaque ibérique s'est connectée avec la plaque continentale européenne.
Ça se passe comment et à quel moment ça ?
Ça bouge, ça met quelques dizaines de millions d'années pour s'approcher. Et puis tout d'un coup, ça se touche et puis ça continue à pousser et ça forme les Pyrénées. Donc la corniche, c'est un des premiers témoins de cette réunion de continents.
J'imagine qu'il y a des conséquences à cette rencontre.
Les conséquences, c'est la montagne qui n'en finit pas de se lever. Ce sont les séismes qui longent la chaîne des Pyrénées, qu'on ne ressent pas toujours, mais qui sont bien là, à des magnitudes aux alentours de 3-4. Hein. Et puis, ce sont aussi des plissements. Quand on se promène sur la corniche, on s'aperçoit que les roches ne sont pas tout à fait bien tranquilles. Elles sont relevées, redressées, pliées dans tous les sens. C'est très beau, d'ailleurs. Mmh. Et donc, on a là, devant nos yeux, un beau spectacle de la force géologique.
C'est vrai, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas, parce qu'il y a des grottes aussi qui sont cachées.
Oui, il y a quelques grottes. Alors ça, c'est autre chose. Il y a la formation des montagnes et on apprend tous au collège qu'avec le cycle de l'eau, les montagnes s'érodent et redéversent les sédiments vers les côtes. Et donc, tous ces plissements, tous ces apports de sédiments et autres font qu'il y a des points singuliers. Et en particulier, au point de un petit peu de fracture et autres, c'est là que la mer creuse en certains endroits par le dessous, qu'on voit du bateau et pas de la côte, hein, des grottes qui sont sous les pieds des marcheurs.
Ce sont des cachettes pour les oiseaux ?
Des cachettes pour les pirates. Pour les oiseaux, pas tellement. Les oiseaux ne vivent pas en grotte, mais plutôt sur les rochers. Mm-hmm. Mais ce sont surtout des points de fragilité qui, combiné avec ce qui se passe par le dessus, pose des problèmes de stabilité.
C'est un endroit important dans notre histoire à tous.
Oui, c'est un endroit important.
Au niveau études, je veux dire.
Études, oui, mais au-delà de ça, on passe simplement pour voyager. Les premiers Homo sapiens sont arrivés sur les bords de l'Atlantique à ces endroits. Les Néandertaliens y étaient passés. Et puis on peut prendre comme ça toute l'histoire, qu'elle soit préhistorique ou venir jusqu'à nos jours. Et il s'est passé plein de choses. Le mur de l'Atlantique, des choses plus sympathiques avec des grands personnages locaux qui ont établi leur belle demeure sur la corniche. Je veux parler de Antoine d'Abadie d'Arras. Donc vraiment, la corniche, c'est un endroit qui est un bon reflet de la vie.
Très vivant, évidemment, j'allais le dire. Très vivant avec la faune, la flore, les mammifères marins qui s'approchent aussi.
Oui, les mammifères marins, c'est un bon sujet parce que vous savez que de tout temps, les Basques se sont intéressés à la baleine. La baleine croise sur nos côtes. Elle vient parfois s'y échouer. Et puis, il se trouve qu'on trouve des vestiges humains, enfin préhistoriques, construits en os de baleine près de chez nous. Donc, vraiment, les baleines ont une place importante dans l'histoire de ce pays.
On parlera d'aujourd'hui, tout à l'heure aussi, avec l'érosion, le sable qui diminue, les rochers. On parlera de tout ça avec vous, si vous voulez bien, Guy. Il est question de la corniche basque, 6 km de corniche. C'est beau, ça ?
C'est beau.
C'est beau.
Du Port-Vieux jusqu'à Bibi-Beau-Rivage, les Biarros écoutent France Bleu Pays Basque sur 101.3.
Guillaume Farmer. Mais nous sommes enchantés de vous recevoir, Guillaume Bertin.
Entre terre et mer, c'est maintenant sur France Bleu Pays Basque.
D'autant que Guy, vous parlez de ce que vous aimez, c'est clair.
Oui, j'aime beaucoup de choses.
Vous aimez ce qui est aussi comme ça, dans une sorte de magie, mais en même temps, vous êtes quelqu'un de concret. Hein, et on parle aujourd'hui de la corniche basque. La corniche basque, 6 km de corniche, sera fêtée la semaine prochaine, le week-end prochain, dimanche. Et on va pouvoir s'y promener à pied. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce rendez-vous avec la corniche, hein, avec la nature.
Oui, c'est une belle occasion de découvrir ça sans voiture. C'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. Donc nous, on voulait parler de cette érosion aussi, parce qu'évidemment, elle existe, elle est là. Il y a des maisons qui risquent quand même un peu leur peau aussi.
Oui, enfin, sur la corniche,
pas
tellement de maisons, mais sur la côte basque, ouais. Oui, c'est un cas. Bon, la mer attaque le bord de falaise, c'est un sujet. Et puis le second qui est encore plus important, c'est que l'action des eaux de pluie sur le dessus, on y pense moins, mais aussi un facteur d'érosion.
Et puis, c'est naturel en même temps.
Ah oui, c'est complètement naturel, complètement connu, même si c'est pas toujours très agréable à gérer, mais c'est vraiment un phénomène naturel. Et les roches de la corniche, encore, on a de la chance parce que elles sont un peu moins dures. Je ne sais pas si vous avez observé, en Espagne, par exemple, la côte est plus haute et c'est les roches qui ne sont pas très différentes, mais un peu plus graisseuses, un peu plus cimentées, ce qui fait qu'elles résistent mieux. Chez nous, on a ce feuilleté de roches dures et tendres qui s'érodent. Et en deux siècles, selon les endroits, on a perdu pas mal de distance. Alors, sur la plage du Romardi, par exemple, on peut perdre 80 cm parce que le sable s'érode très facilement. En revanche, dans les endroits qui sont plus durs et autres, l'érosion est plus lente, mais elle est bien là. Et la route qu'on emprunte là pourra sans doute pas rester encore des dizaines d'années à l'endroit où elle se trouve. Ça fait partie des réalités naturelles.
Demander combien de temps pour que les choses
se
transforment.
Je me risquerais pas à vous donner un pronostic, mais l'ordre de grandeur, c'est la dizaine d'années, quoi.
C'est quand même court.
Ouais, c'est quand même très
court. Ça passe vite, 10 ans.
Ça passe très vite, 10 ans, surtout que c'est vraiment quelque chose d'effectif qu'il faut accepter.
Tu peux anticiper aussi.
Anticiper, bien sûr. Mmh. Anticiper, bien sûr. On peut, dans ces deux agents principaux, il y a donc la mer qui attaque, là on n'y peut pas grand-chose. Et par le dessus, la gestion des eaux souterraines, les fossés, éviter que les eaux se baladent un peu n'importe comment, ça c'est quelque chose qui est plus facile.
Vous pouvez donner des précisions?
Des précisions, oui. Enfin, je crois que c'est assez bien géré, hein, quand même. Mais il faut faire attention. Hein. Il y a une image très célèbre qui date des années 80, où quelqu'un qui prenait son petit sandwich là en regardant l'océan dans sa voiture s'est retrouvé 20 mètres plus bas, et il y a une photo où on voit une magnifique voiture en position intermédiaire entre la côte et voilà. C'est rien passé de grave, mais ça fait partie des choses.
On a commencé à parler d'avenir. On ne va pas rester que sur la corniche. Bon, il y a beaucoup de personnes proches de l'océan qui s'alarment un peu aussi, proches de l'environnement, de la nature. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les humains?
Nous, les
particuliers.
Oui, on a...
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, écoutez, la corniche, c'est un bel exemple de ce qu'il faut faire, parce que vous savez que le domaine est classé administrativement, il est protégé, donc on ne peut pas y construire. Donc en faisant ça et en l'étudiant, on préserve là un de nos joyaux. Et je trouve que c'est un bon signe d'intelligence humaine pour maintenant et pour le futur, parce qu'on peut à la fois protéger cet environnement exceptionnel, et puis on peut aussi y travailler pour réfléchir au futur, et puis on peut aussi y vivre, parce que sur la corniche, une trentaine d'exploitations agricoles sont vivantes, des centres de recherche, des centres touristiques arrivent à cohabiter tout en préservant ce bel espace. Donc je trouve que c'est un beau modèle, et c'est un beau modèle aussi qui existe par l'énergie du Conservatoire du Littoral et par une loi la loi de protection du littoral qui est régulièrement attaquée. On essaye de lui donner des petits coups de canif et je crois que c'est bien de résister et de préserver ces endroits.
Oui, parce que quand on construit, on va en profondeur aussi, bien sûr. Il y a les fondations, on creuse. Bon, il y a toute une activité en fait, sur le terrain qui a un impact.
Oui, oui, tout à fait. Et surtout les roches que vous voyez sur la corniche qui sont dures en apparence dans leur partie superficielle, elles se transforment en des argiles qui sont, elles, très... On les appelle les argiles gonflantes, c'est-à-dire quand il pleut, elles gonflent, quand il fait sec, elles rétrécissent, et c'est à l'origine de pas mal de problèmes géotechniques sur la côte, quoi. Donc il faut gérer ça.
Guy, nous allons malheureusement nous quitter. Merci d'être venu. On rappelle que c'est la fête de la corniche dimanche prochain. Et puis qu'un livre est sorti il y a peu de temps, un peu de mois, et que on se l'arrache, livre, un trésor géologique avec plusieurs géologues justement qui ont travaillé dessus, dont Pierre Monrouillot qui était venu ici nous rejoindre dans l'émission Entre Terre et Mer.
Oui, c'est
vous-même.
Oui, tout à fait. C'est un livre d'amis qu'on a fait bénévolement pour partager ces trésors géologiques qui sont nombreux sur ce petit endroit de.
Vous allez le rééditer parce que je crois qu'il est en rupture.
Il est pas mal diffusé. Il est parti très très vite. Il est sorti.
Merci beaucoup, Guy. Passez une belle journée aujourd'hui. Et puis sur la corniche, si vous y allez faire un tour, j'imagine aussi. On se reverra très bientôt.
Bien sûr.
Merci. Ah. Et puis les pirates. Salut les pirates. C'est dans quelques minutes avec Jeff Bernard qui va nous donner tout plein d'infos, livres aussi.
France Bleu Pays Basque. France Bleu.
Et qu'importe le temps, et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens? Comment faire pour faire autrement que ça? Et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Je me dis que toi aussi. C'est bien fait pour moi, oui c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, où je fuis. Je suis parti pour mauvaise raison, je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi.
Boulevard désert avec Je me dis que toi aussi. Eh bien, on va dans cette émission rejoindre Jeff Bernard. C'est Salut les pirates sur France Bleu Pays Basque avec Jeff, éducateur et fondateur de Biarritz Surf Océan et formateur développement durable. Aujourd'hui, Jeff, vous souhaitez nous parler du rôle éducatif et pédagogique du surf.
Salut les pirates sur France Bleu Pays Basque. Salut les pirates avec Jeff Bernard.
Salut les pirates. Les surfeurs, les navigateurs, les baroudeurs des mers ont toujours un bon bouquin sous le coude. Celui dont je vais vous parler vaut son pesant d'or. Il s'intitule Waterman et livre une biographie exhaustive du célèbre Hawaïen Duke Kahanamoku. Le livre sort en 2015 aux États-Unis. C'est le journaliste américain David Davis qui en est l'auteur. Il est ensuite traduit en français par Hervé Magnifica et paraît en juin 2018 aux éditions Atlantica, maison d'édition située à Biarritz. En parlant de cette sortie littéraire à mes élèves surfeurs, je réalise que 99,9% d'entre eux n'ont jamais entendu parler du Duke Kahanamoku et qu'une majorité des surfeurs locaux n'en connaissent pas vraiment plus. Et pourtant, Duke Paua Kahanamoku personnifie à lui seul les codes fondamentaux des hommes de l'océan et l'esprit du surf. Né en 1890 à Honolulu et décédé en 1968 dans la même ville, le Duke a été à la fois le père du surf moderne, le nageur le plus rapide du monde, un acteur hollywoodien ami intime des stars, un champion olympique, pour finir shérif d'Honolulu à Hawaï. C'est en 1911, à l'âge de 21 ans, que tout commence. Il participe à une course amateur de natation dans le port d'Honolulu et explose le record du monde de 4,6 secondes dans un 100 mètres nage libre. Il s'octroie également le record du monde sur le 200 mètres. La foule est littéralement enflammée. Elle réalise l'incroyable talent du jeune Hawaïen, mais l'institution sportive de l'époque, l'Amateur Athletic Union, refuse d'officialiser ses records. Pour prouver son talent, Duke renouvelle son exploit à New York en 1912 et se qualifie aux Jeux Olympiques de Stockholm, où il remporte une médaille d'or au 100 mètres nage libre, ainsi qu'une médaille d'argent au relais du 4 x 200 mètres. Il est le premier noir à intégrer l'élite de la natation internationale. Au travers de multiples épisodes raciaux épineux, Duke garde toute son élégance et sa cordialité. Ses valeurs et son talent prennent toujours le dessus. Il gagnera d'autres médailles aux Jeux Olympiques de 1920 et de 1924, ainsi que la médaille de bronze aux JO de 1932 en water-polo. Au-delà de sa performance sportive, partout où le Duke passe, beaucoup restent sous le charme de ce corps de bronze formé à la perfection, de son sourire autant flamboyant que rassurant et de sa gentillesse sans borne. Il devient très vite l'ami intime des personnalités les plus célèbres. Dès 1912, au cours de multiples exhibitions, il fait découvrir le surf en Californie, en Australie et dans le monde entier. La pratique du surf et l'archipel hawaïen sont alors inconnus sur la scène mondiale. Il est le premier à en faire la promotion. Il fait littéralement exploser la passion du surf et transmet ses valeurs d'origine partout où il passe. Dans les années 20, sa notoriété est mondialement connue. Il est le meilleur nageur et surfeur du monde. Son charme et sa notoriété ne tardent pas à attirer l'intérêt des producteurs hollywoodiens. C'est ainsi qu'il joue dans une vingtaine de films des rôles de pirate ou de chef indien. On le retrouve entre autres dans Le Réveil de la Sorcière Rouge, qui a comme vedette principale John Wayne. Après presque 10 années passées sur les collines d'Hollywood en Californie,